Merci aux gens de l'Outaouais, de l'Estrie qui se joignent à nous et tous ceux qui attrapent cette deuxième heure d'émission. Vous êtes au bon endroit. On va parler maintenant de langage corporel. Vous savez que, on le dit souvent, il y a des signes qui ne mentent pas. Et quand on, des fois, quand on s'y attarde, on peut se rendre compte que notre corps dit beaucoup de choses. On peut avoir la bouche fermée. Ben, moi, je l'ai souvent ouverte. Mais... On peut avoir la bouche fermée, mais le corps, lui, parle. Le corps dit beaucoup de choses. Et même quand on veut pas dire, on dit sans trop, sans en être conscient, finalement. C'est ce qu'on appelle, depuis quelques années, ça s'est développé comme une espèce de science, presque. C'est la synergologie, c'est-à-dire le langage inconscient du corps. Il y a des spécialistes qui sont devenus très, très bons à analyser votre langage corporel, dont Annabelle Boyer, qui est synergologue. Merci beaucoup d'être là, Annabelle. Merci. Bernard Motulski est titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing à l'UQAM. Merci Bernard d'être là. Et là, on voulait parler de ces signes, justement, que vous nous envoyez les politiciens pendant... Bon, évidemment, on ne parle pas que de ça, mais puisqu'on on est en jour 2 de campagne électorale, on se disait que c'était un beau clin d'œil à faire que d'analyser un peu ces multiples signes. Il y en a beaucoup. On en fait tous, d'ailleurs, dans notre vie de tous les jours. On s'est dit, les auditeurs aussi, dans leur, que ce soit au bureau, dans notre vie personnelle, on dit beaucoup de choses sans vouloir le faire, Annabelle.
C'est inévitable parce qu'inévitablement, le corps continue de parler et il y a énormément de gestes, de postures, de démangeaisons, de micro-expressions que l'on fait et on les fait de façon inconsciente. On ne sent pas la contraction musculaire, mais ça n'empêche pas qu'elle a lieu quand même et ça n'empêche pas qu'on a des gestes quand même. Donc, par exemple, moi, je suis capable de lever un sourcil. Je ne suis pas capable consciemment de lever l'autre sourcil tout seul. Pourtant, quand je parle avec mon conjoint, il y a des fois où il va dire quelque chose qui me dérange et le sourcil va monter quand même. Je ne le sens pas. Mm-hmm. Mais il y a quand même une réaction physiologique. Évidemment, on a plein de gestes comme ça qu'on va faire et on s'en rend pas compte. Et souvent, quand j'analyse le langage corporel de quelqu'un, là, je lui demande « Pourquoi est-ce que tu es en train de te gratter en ce moment? » Et la personne n'a même pas conscience qu'elle était en train de se gratter. Parce que souvent, on est concentré sur notre discours, on est concentré dans notre tête à ce qu'on voudrait répliquer à l'autre personne. Et à ce moment-là, on n'est pas vraiment à l'écoute de notre propre corps.
Quels sont les signes qui sont les plus évidents?
Bien, en fait, il y en a plusieurs. Évidemment, les gens connaissent bien, on remarque bien, disons, le croisement de bras, le croisement de jambes. Ça, c'est des choses qu'on va voir rapidement. Les gens remarquent assez rapidement quand il y a une démangeaison au niveau du visage chez l'autre personne. Mais ce qui va être intéressant à observer...
touche tout le temps le nez, là, tu dis, voyons, coudon.
Les démangeaisons du nez sont en effet c'est très particulières. Mais en fait, ça dépend où est-ce que ça survient. Par exemple, moi, quand mon conjoint me raconte une anecdote et que je n'aime pas ce qu'il me raconte, ça me pue au nez. Je vais pincer mon nez, je vais le frotter beaucoup en dessous parce que je n'aime pas du tout l'anecdote qu'il est en train de me raconter.
Ah,
tout à fait.
Pardon?
Mon conjoint est crampé à chaque fois. Il dit, oh, tu l'as pas aimé, celle-là. Donc, il y a des réactions qui sont tout à fait réflexes, qui sont instinctives. Je ne le contrôle pas. Si j'aime pas ce qu'il est en train de me raconter, je n'aime pas entendre ce qu'il me dit, c'est sûr que je vais me gratter l'oreille. Et pourtant, on s'entend, là, j'ai des années d'expérience à analyser le langage corporel. Je pourrais le contrôler, mais je peux pas.
Mais tu t'en rends compte toi-même, ça doit être pénible, toute la journée, tu te vois toi-même. Tu te dis, voyons, je viens de me gratter, qu'est-ce que j'ai qui m'énerve?
C'est quand je fais, par exemple, un Facebook Live, je suis en direct, et là, je suis en train d'expliquer quelque chose, et tout d'un coup, je me gratte la tête. Et là, je viens de prendre conscience que je viens de me gratter. Et
la tête, que ça veut dire, le grattage de tête?
Que je trouve la situation compliquée. Je trouve que ce que je suis en train de dire, il faut que je trouve une façon de le simplifier parce que c'est trop compliqué.
Okay.
Mais je me rends compte que je suis en train de me gratter. Je suis dans un live, la face me change. Je me vois sur ma caméra. Et là, je dois l'expliquer aux gens parce qu'évidemment, ça paraît dans ma face.
Ouais. Bernard, qui écoute avec beaucoup d'intérêt, évidemment, Bernard, qui est un spécialiste de la communication marketing, un peu différent quand même de la synergologie.
Ouais, tout à fait. Nous, en fait, ce sur quoi on travaille, on essaye de faire justement en sorte que les gens n'en disent pas trop qu'ils veulent pas dire. Parce qu'il y a un bon vieux principe en communication, c'est on peut pas ne pas communiquer. Alors, surtout si vous voulez pas communiquer, et c'est une des premières choses qu'on dit aux gens qui vont, par exemple, passer dans les médias, c'est si vous êtes pas naturel, si vous essayez de cacher quelque chose, vous êtes sûr que c'est ça qui va paraître, puis ça va paraître que vous êtes en train de jouer un personnage ou un rôle qui est pas le vôtre.
Ouais.
Donc, il faut être le plus spontané, naturel possible, sans pour autant être niaiseux puis dire n'importe quoi. Donc, le défi, c'est la préparation, d'être préparé, d'avoir des choses simples, claires à dire et d'apprendre à être à l'aise, d'apprendre à se détendre.
Mais j'ai un exemple concret parce que j'y pensais ce matin en écoutant l'entrevue de Gérard Deltel avec mon collègue Paul Arcand. Paul qui a demandé 3-4 fois la même question. et Gérard, qui est un ancien journaliste pourtant, maîtrisait tout à fait l'art de pas répondre à la question, à tel point que Paul lui a dit, voyons, vous répondez pas, c'est simple pourtant, oui, non. Est-ce qu'il y a trop d'immigrants? Est-ce qu'on accueille trop d'immigrants? Gérard Deltel n'a jamais dit ni oui ni non. Puis on peut comprendre que ça peut être une question embarrassante, mais en même temps, pourquoi? Il y a ça, là, pourquoi? Ça, faudrait quand même... Ça va être long un mois là, si tout le monde se met à pas répondre aux questions.
Ben, là encore, ce qu'on dit, c'est vous pouvez ne pas répondre, mais vous pouvez expliquer pourquoi vous ne répondez pas. Et oui. C'est souvent beaucoup plus facile à tenir aussi. C'est pas de dire je sais pas ou je veux pas vous le dire ou
Je sais pas. C'est une réponse. Ça se peut qu'on le sache pas là.
Ouais, mais ce qu'on s'attend, c'est surtout si vous avez donné une entrevue, c'est que vous expliquiez pourquoi vous savez pas. Qu'est-ce qui vous manque comme information.
Peut, mais je veux dire, ça peut être une réponse. C'est pas de dire, je sais pas là. C'est de dire, écoutez, en ce moment, j'ai pas la réponse. Je peux la trouver. Toutefois, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des moyens de communiquer. Est-ce qu'on s'attend à ce que tout le monde ait une réponse à chacun des problèmes de la vie? Moi, je m'attends pas à ça. Là.
Non, mais souvent, puis c'est drôle parce qu'en période d'élection, quand un candidat veut pas répondre puis qu'il essaie de s'en sortir, une des choses qu'on va voir, c'est le candidat est assis ou il est debout, il va se balancer sur sa chaise.
OK.
S'il est debout, il va se balancer aussi les fesses parce que là, il y a une incertitude et il ne sait pas quelle position prendre. Il ne sait pas comment s'en sortir. Donc, il va se balancer comme ça et les mains vont s'agripper à quelque chose. Ils vont s'agripper au lutrin plus fortement. Ils vont s'agripper au crayon plus fortement. Ils vont s'agripper à quelque chose pour se calmer, se réconforter. S'il se détend, il va répondre. Il reste crispé, il ne répondra pas.
C'est ça.
Et là,
c'est
à ce moment-là, il faut trouver une autre question pour réussir à lui faire dire, mais faut essayer de créer un espace d'authenticité. Ce que tu décris, Isabelle, Bollarkand lui a dit, oui, mais répondez oui ou non. Donc, il essayait de le pousser à donner une réponse. Ouais. Et c'est en effet ce qu'il faut faire pour réussir à avoir une réponse dans ce temps-là. Mm-hmm. Mais si la personne dans sa tête, elle ne veut pas répondre, elle va se fermer assez rapidement. Et là, la bouche va se contracter, les lèvres vont rentrer vers l'intérieur et il refuse de parler.
Mm-hmm. Ben, ce qu'on dit aussi, c'est que ne pas répondre, il y a des façons de ne pas répondre. Oui. Et c'est de partir aussi. Vous pouvez dire, c'est une excellente question, mais malheureusement, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Mais ceci dit, le plus important, c'est de penser. Et là, vous partez.
Revenir avec son message.
Mais c'est sûr qu'un Polarca, il ne vous laissera pas faire.
Ouais.
Ou il va vous laisser faire deux, trois fois. Là, on se souvient d'une entrevue avec Mélanie Joly il y a quelques mois, qui était fameuse pour ça. Alors là, ça devient un art. Ouais. Mais là, on est plus dans... Moi, j'aime ça parler un peu d'une danse. Oui. Hein, c'est que les deux qui se promènent ensemble. Et c'est ça qui fait une entrevue intéressante. C'est qu'il ne faut pas que ce soit uniquement je le pousse l'autre dans ses retranchements et puis là, il finit par céder.
Mais on revient au langage corporel. Là, on a vu... je voyais justement, je regardais à la télé tout à l'heure Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois parle beaucoup avec des grands gestes amplifiés.
Oui.
Il est très, très, très... C'est très grandiose. C'est gros. Là.
C'est ce qu'on appelle une
stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, c'est une stratégie de communication du conquérant. Donc, il veut absolument nous convaincre. Et plus il veut nous convaincre, plus les gestes sont grands. Pour vous faire une analogie, rappelez-vous le pêcheur qui vous dit qu'il a attrapé une truite grande de même. Plus il veut nous convaincre que la truite est importante, plus la truite grandit et plus ses mains vont s'élargir pour nous convaincre que la truite était grande. Donc, plus on veut absolument convaincre quand on est en stratégie de conquérant, plus les gestes vont être amples et il va y avoir plus de gestes, justement pour venir appuyer le discours.
Vous disiez tout à l'heure... Oui, Bernard?
Il y a aussi, pour moi, l'élément, sans doute le premier, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est le regard.
Oui.
C'est à travers le regard aussi que l'on... D'abord, si quelqu'un vous regarde la caméra, vous lui faites confiance. Un regard qui se promène, vous savez pas où aller. On a l'impression qu'on est en train de nous raconter des histoires. En tout cas, qu'on n'a pas quelqu'un de franc devant nous. C'est d'ailleurs un des défis. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un qui vous livre un discours, s'il passe son temps à regarder sa feuille, ça va être plate.
Ouais.
Donc, ce que les gens apprennent, pratiquent, ils ne peuvent pas forcément le mémoriser, mais c'est acheter un coup d'œil de temps en temps pour se rappeler un point, mais de regarder, de fixer, pour être capable de passer du sens.
D'avoir l'air vrai.
D'avoir l'air vrai, que ce soit vraiment la personne qui parle. C'est un peu la même chose avec ce qu'on appelle les cassettes. Là. Quelqu'un qui va vous sortir un message qu'il a appris par cœur, il est coincé parce qu'il ne pourra pas dire d'autre chose, il ne pourra pas en sortir. Et là, si vous le relancez, c'est là où ça va commencer à mal aller. Soit il va répéter la même chose, soit il va donner des signes d'inconfort et qui sont uniquement le fait qu'il ne sait pas quoi dire.
C'est un peu là où on reconnaît les les vrais menteurs, là, ceux qui vous mentent honnêtement, c'est ceux qui vous racontent pas tout à fait la même histoire. Parce que le menteur peut être mêlé dans ses mensonges, oui. Hein, Annabelle?
Oui, mais en fait, généralement, les menteurs ont de la difficulté à se souvenir du mensonge qu'ils ont raconté. Donc, soyez très attentifs aux propos et posez des questions 10 minutes plus tard sur exactement la même chose, mais posez la question un peu différemment et il va avoir de la difficulté à se souvenir de ce qu'il vous a raconté.
Mm-hmm.
Puis essayez de lui demander de raconter son histoire à l'envers, en partant de la fin. Si on n'a pas vécu...
Jamais essayé ça. Non.
Vous essayerez ça. Si vous n'avez pas vécu, par exemple, un dîner au restaurant avec quelqu'un, vous avez inventé ce dîner-là, ben vous ne serez pas capable de le raconter à l'envers parce que votre cerveau et votre corps ne l'ont pas vécu.
Ben oui.
Alors, à l'envers, le menteur, c'est sûr qu'il se trompe. Alors que quand on l'a déjà vécu, on est capable de le raconter à l'envers.
Ça vaut avec les conjoints aussi sur lesquels on a des doutes, hein, pour répondre à la question de certains qui m'écrivent. Il y a Justin qui dit, moi, j'aimerais vraiment ça me faire analyser. Bon, un client pour Annabelle. Les gens disent que je suis bon comédien et que quand j'essaie de faire croire quelque chose à quelqu'un pour blaguer, que je suis très convaincant. Je me demande si une experte serait capable de me démasquer.
Mais en fait, dans ces situations-là, pis c'est drôle parce que moi, ça m'arrive souvent quand je vais dans une émission de télé, puis là, les gens essaient de me coincer, puis là, ils me racontent une vérité puis un mensonge, puis faut que je dise là, on the spot, c'est lequel le mensonge. En fait, quand on veut déceler un mensonge, faut identifier d'abord et avant tout quelle est la stratégie de communication que la personne a utilisée. Est-ce que c'est un conquérant comme Gabriel Nadeau-Dubois? Est-ce que c'est un vigilant? Quelqu'un qui a tellement peur de se faire prendre, qui veut surtout pas être découvert, le vigilant, il bouge presque pas. Et lui, il est difficile à déceler parce que, justement, il a très peu de gestes, très peu d'amplitude, très peu de changement de posture. Donc, lui, il va vous surveiller. Il a peu de gestes à regarder. Le syntonique, c'est le plus difficile à déceler.
Syntonique.
Un syntonique, c'est le caméléon. C'est celui qui va se mouler à vous. Aujourd'hui, vous dites blanc, il va dire blanc comme vous, il est tellement d'accord avec vous. Il se retrouve avec quelqu'un d'autre, l'autre personne dit noir, puis il est tout à fait d'accord avec lui aussi. Donc, il s'est moulé à l'un ou à l'autre pour faire plaisir, pour pas partir de chicane, pour faire partie de la gang. Donc, c'est un super adaptatif. Le syntonique est plus difficile à déceler. Mais quand on sait à l'avance, quand on regarde la personne, puis qu'on dit, OK, lui, il bouge beaucoup, OK, j'ai affaire à un conquérant. Un conquérant, quand il ment, il bouge encore plus.
Mm-hmm.
C'est le super acteur. Il va pousser les gestes plus loin, plus haut, plus de gestes.
Fait que Justin, vous pourriez le pogner. oui.
Justin, il faut se demander quand il pleure.
Ah oui, l'autre Justin. Oui.
Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est forcé?
Ça aussi, c'est
alors, il y a un peu les deux écoles. Il y en a qui disent, il a déjà été prof de théâtre, donc il sait comment. C'est seulement les acteurs qui sont capables de faire ça. Sinon, c'est difficile pour vous et moi d'avoir vraiment l'air malheureux si on ne l'est pas.
Non, c'est ça.
Il faut le ressentir, en effet.
Ouais.
Pour être convaincant, il faut être ressenti. Quand on veut raconter un mensonge, généralement, les comédiens, par exemple, quand ils doivent jouer une scène, ils doivent se remémorer quelque chose qu'ils ont réellement vécu. S'ils doivent jouer une scène, par exemple, de tristesse, ils vont se rappeler un événement où ils ont eu énormément de peine. Ils vont replonger dans l'émotion parce qu'à ce moment-là, le corps s'en souvient et va le reproduire. Le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire.
Mm.
Et à ce moment-là, ils peuvent le reproduire. Les bons menteurs, c'est ça qu'ils font. Ils vont chercher dans les souvenirs un événement qu'ils ont vraiment vécu. Mais là, tout d'un coup, c'est plus leur oncle qui est mort, c'est leur grand-mère.
C'est ça.
Et c'est pour ça qu'ils ont
ça,
la convaincue.
Ça, c'est le truc quand on fait des squelettes dans le placard.
Oui,
moi, c'est toujours mon truc. Je me pogne tout le temps quelque chose qui ressemble à la vérité, mais je mets un petit mensonge là-dedans.
C'est
comme ça, on se mêle moins dans ces mensonges.
Oui.
Mais c'est bien difficile d'être un bon menteur.
Oui.
C'est très difficile et on doit le faire seulement quand ça vaut vraiment la peine, parce qu'il faut le préparer, il faut l'organiser.
Oui.
Et surtout, il faut être prêt à payer le prix, parce que quelqu'un qui ment, et surtout quelqu'un qui ment bien, quand il est démasqué, là, ça devient... C'est la pire catastrophe qui puisse arriver. On a vu quelques cas.
Mais il y a eu des cas.
Il y avait Giovanni Apollo.
Ouais.
C'est pas un mensonge une fois qui a été. Mais c'est des. Monsieur Bungingo aussi.
Ouais.
Ce sont
plus
des gens.
Plus dans le cas de François
sont...
Bungingo, c'était un peu plus important.
Oui, mais ils sont créés des personnages qu'ils ont construits à travers des pieux mensonges, comme on fait un certain nombre de contre-vérité ou de semi-vérité. Mais le jour où c'est dévoilé, ben à ce moment-là, vous avez beau avoir été bon menteur, ça ne vous empêchera pas de vous effondrer.
Ah non, tout à fait. Il y en a qui, on a vu des politiciens s'inventer des diplômes à Harvard, on a vu toutes sortes de choses. On va voir ce que les auditeurs en pensent de ça. Est-ce que vous êtes capable de savoir si quelqu'un vous ment? Si vous avez des questions, bien sûr, pour nos spécialistes, vous pouvez les poser avec grand plaisir. 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec. 1-866-790-9850. Comment savoir si quelqu'un nous ment? C'est pas toujours évident. Évidemment, on n'est pas tous synergologues, comme mon invité Annabelle Boyer, qui a, entre autres, écrit le livre « Je lis en vous, savez-vous lire en moi? » Bernard Motulski est un spécialiste de la communication marketing. Bonjour, France.
Oui, bonjour. C'est ça, moi, je voulais parler de mon ex-copain. Je réalisais pas qu'il me mentait au début, mais tout ce que je disais, il disait exactement tout le temps la même chose que moi. Puis, comme la madame a dit tantôt, quand il est arrivé avec une autre personne, il avait exactement les mêmes goûts. Comme là, il est avec une artiste, ben là, tout d'un coup, il avait un foulard dans le cou, etc. Quand c'était moi, ben...
Ah oui, c'est ça!
Ouais, c'est ça. Moi, c'était le yoga. Bon, ben là, il faisait du yoga, il faisait du vélo, il faisait tout ça. Puis j'ai réalisé avec le temps que rien n'était vrai. Il disait qu'il avait voyagé en Asie, parce que moi, j'avais beaucoup voyagé en Asie. Finalement, lui, c'était ça. Fait que moi, au début, j'ai fait comme... Je tombe en amour avec cette personne-là parce que, mon doux, je sentais qu'on avait vraiment plein de points en commun, mais finalement...
Dans le fond, c'était vous. Il vous renvoyait à votre miroir. Il y a des gens qui... Ça, c'est fascinant, oui. Ça. Ce que France nous raconte, c'est des gens qui, finalement... ont un déficit de personnalité. Ben, c'est quoi, ça, Bernard, d'après vous? Là,
souvent, je pense que ce qu'on peut décoder, c'est...
C'est un problème psychologique, sans doute.
Ben, là, mais... Une incapacité de se définir seul, ouais, de s'affirmer.
C'est ça.
Et ça aussi, ça peut conduire effectivement rapidement au mensonge, parce que quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous dites, ben, vous allez essayer de décoder, savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je dise pour que ça plaise, pour que ça marche, pour pas que je sois puni. Et à ce moment-là, vous racontez une histoire. On voit que c'est souvent la source aussi de gros mensonges, parce qu'une fois que vous avez commencé, le chum là, qui dit qu'il est allé en Asie, mais une fois qu'il a commencé, il va falloir qu'il trouve, qu'il s'invente un voyage. Et après, ben, le mensonge se met à grossir et on n'arrive plus à s'en sortir. Ça finit souvent par une crise.
C'est dangereux parce que des fois, il y a même des menteurs qui vont dire « je connais telle personne ». Moi, oui. Ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui m'avait dit « je connais un tel qui est un joueur de ski, qui est un skieur, un athlète olympique connu et tout ». Puis la journée où j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait puis que l'autre était là... Puis... Là, c'est que, mais vous vous connaissez donc. Et puis, oups! Là, l'autre, il a juste envie de sortir de la pièce puis de. Oui. Parce que ça devient trop gros. Donc, certains mensonges peuvent être assez.
Peuvent aller très loin, oui, en fait.
Oui.
Et là, ce que France décrit, on est vraiment dans le menteur syntonique. Donc, un menteur qui va vraiment se mouler aux autres. Et ça a dû être pour France un choc quand elle a réalisé que c'était inventé de toutes pièces parce qu'elle l'a probablement pas vu venir. Puis ces menteurs-là sont très à l'écoute de leur proie. Ils vont vous faire parler parce qu'ils ont besoin d'informations. Pour être capable de construire le mensonge, il faut qu'ils puissent avoir le plus d'informations possible pour être en mesure de créer leur propre histoire. Ils vont essayer de trouver beaucoup de points communs avec votre histoire. Donc, ils vont vous faire parler, c'est inévitable.
Mais ça, c'est tout inconscient, là.
C'est en partie inconscient, ça dépend des gens, ça dépend du niveau de narcissisme de l'individu.
Ouais.
Mais ces menteurs-là, ce qui est particulier, c'est que ça va être des menteurs souvent qui vont être très toucheux. C'est difficile de mentir à distance. C'est difficile de mentir quand on est loin physiquement de l'autre.
Ouais, ouais.
Donc, ces menteurs-là, généralement, vont s'arranger pour vous toucher le poignet, vous toucher l'épaule, vous jouer dans les cheveux. Ils vont être beaucoup plus toucheux. Donc, évidemment, ils vont venir rentrer dans votre bulle. Ils vont le faire graduellement. Fait qu'évidemment, c'est comme le principe de la grenouille dans l'eau chaude. Ça se réchauffe tranquillement. Fait que la grenouille ne se rend pas compte que l'eau est en train de bouillir. C'est le même principe. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à déceler. Et eux vont vous regarder dans les yeux, puis ils vont avoir un regard doux, la tête penchée sur la gauche, avec un petit sourire. Parce qu'en effet, ils essaient volontairement de créer un lien avec vous.
Pencher sur la gauche, puis sur la droite, ça veut dire quoi?
Sur la droite, ça serait le contrôle du discours.
Ah bon, OK. Je suis un peu à droite, là.
Faut qu'il faut réussir...
Je peux pas vous contrôler.
C'est la droite de qui, là? Ça dépend, la droite de qui?
Ouais, c'est pas politique du tout. Mais c'est vrai que... Ouais, ouais.
Ça va être intéressant dans ces cas-là, particulièrement d'observer les pieds et de poser des questions. Parce que les gens pensent à leurs mains, pensent à leur visage, mais ne pensent pas à leurs pieds. Mm-hmm. Quand on pose une question à quelqu'un qui a pas de vie puis qui essaie de s'en inventer une avec vous, quand il est debout, à ce moment-là, les pieds vont commencer à chanceler sur le côté. La cheville plie sur le côté. Justement parce qu'il n'est pas solide, il n'y a pas de fondation. Donc, les pieds vont commencer à plier sur le côté, puis il va se mettre à se balancer, justement parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien de solide. Et les pieds, à ce moment-là, vont venir le témoigner. Les jambes vont s'en aller en dessous de la chaise, vont faire le tour des pattes de chaise. Donc, il va y avoir des signes où on a de l'ancrage parce qu'il n'est pas sûr de sa propre histoire.
Quelque chose pareil.
Ben, commencer à se tortiller sur sa chaise. C'est parce qu'il y a le mensonge puis la nervosité.
Oui.
Hein?
C'est
deux voisins qui sont... Quand vous parlez en public, tout le monde est nerveux de parler en public.
C'est la peur numéro un. Les gens,
on panique. On panique tous dès qu'on a 10 personnes devant soi. Alors, comment on fait pour essayer? On va essayer d'aller les chercher pour réduire la pression. Ouais. Aller les chercher, c'est... On va raconter une anecdote qui va les toucher, qu'on va avoir préparé. Et surtout, on regarde, on guette où les gens regardent, s'ils nous regardent. Quand ils arrêtent de nous regarder, ça veut dire là, il faut que je trouve une façon d'aller les rechercher, d'aller les intéresser
à
nouveau.
On a Yannick avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour, ça va bien?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Ben écoutez, naturellement, le sujet est très intéressant. Là. Moi, ce que je fais pour savoir si quelqu'un ment ou ment pas, naturellement, comme on parle, il y a le langage corporel.
Ouais.
Mais habituellement, quand je demande une réponse et puis automatiquement la personne a un délai dans sa réponse, automatiquement, là, je peux voir qu'il y a quelque chose qui est pas... Il y a un anguille sous roche, comme on veut dire. Là. Mon nom est qu'il y a un délai là, puis il charge dans sa tête des réponses. Là. Il y a quelque chose qui c'est pas clair, la réponse ne vient pas automatique. Mm. Souvent, c'est signe qu'il peut avoir un mensonge, tout dépendant de quel genre de question aussi. Mais ça, c'est une bonne façon là, de déceler là, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là.
Bernard et Annabelle, là-dessus?
Oui, vous avez raison. Quelqu'un qui hésite, ça peut être parce qu'il essaye de trouver ce qu'il va inventer. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui n'hésite pas, ça peut être aussi quelqu'un qui est tellement bien préparé que les réponses, elles sortent comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont plus authentiques.
Ouais.
Si vous vous êtes préparé, vous savez
quoi
dire.
Ça, l'authenticité, c'est une autre chose, c'est un autre niveau. Là,
oui, mais on fait souvent ça. Quand on prépare les gens, on fait des questions-réponses. Hein. On travaille, puis on dit, ben, voici les questions les plus difficiles. Comme, ce serait quoi la réponse?
Oui, Annabelle, rapidement, on a une détective privée qui nous appelle.
Puis je suis tout à fait d'accord, en effet, parce que les gens qui sont de bons menteurs, les études ont démontré que comme ils sont de bons menteurs et que la réponse est déjà préparée, la réponse vient, en effet, beaucoup plus rapidement.
Ah ouais.
Alors que la personne qui ne s'attend pas à la question, elle doit structurer sa réponse pour que ça sorte correctement. Et dans ce temps-là, il peut y avoir un délai. Donc, ça dépend, est-ce qu'on est avec un menteur qui est habitué de mentir ou est-ce qu'on est avec un menteur qui est au début de son mensonge?
Ah oui, c'est ça. Puis il y a l'histoire de regarder
encore
à droite, en haut à droite, en haut à gauche, ça nous indique quelque chose, ça, déjà?
Oui, mais là, tu vois, les dernières études là-dessus sont un peu ambivalentes. Donc, on sait par contre que les gens qui revivent la situation ont tendance davantage à regarder vers le bas, alors que quand on veut structurer, on a davantage à regarder vers le haut. Sauf que, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite? On se rend compte qu'il y a certaines différences en fonction de la culture, parce qu'on y va, entre autres, avec le sens de l'écriture. Donc, ça, il faut faire très attention là-dessus.
Ceux qui écrivent de gauche à droite
et
de droite à gauche,
vont
pas regarder.
Fait que ça, il faut faire attention.
On a Hélène avec nous qui est détective privée. Vous êtes, Hélène?
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, vous, racontez-nous de quelle façon vous arrivez à déceler les menteurs.
Bien, moi, disons que j'étais détective privée, mais là, je suis à la retraite.
Oui.
Mais je l'ai fait pendant 38 ans parce que j'aimais ce travail-là par rapport que je faisais d'exercice. En plus, je marchais à journée longue.
Oui.
Et que souvent, on arrêtait des gens pour vol ou autre délit. Et je devais passer à la cour en moyenne de 3 fois par semaine.
Mm-hmm.
Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui regardaient à gauche, comme vous venez de parler, il y a quelques secondes, c'est que j'ai lu sur Internet plus tard, j'ai été faire des recherches, c'est des personnes qui gardent à gauche, ils semblent chercher le mensonge qu'ils ont dit ou pas dit, ils ne se souvenaient pas. Et celui qui garde à droite, c'est des personnes qui diraient la vérité.
Ouais.
Alors, j'ai été voir sur Internet, puis j'ai traité le sujet, j'ai regardé, j'ai lu, je me suis renseignée. Et que, puis, donc, pour en conclure, c'est que la mythomanie, c'est une maladie psychiatrique qui ne peut pas, paraît-il.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que pour moi, quand je voulais savoir la vérité, mais je posais des questions aux personnes qui étaient interceptées, puis je leur demandais une question, puis j'avais une réponse. Et un petit peu plus tard, je revenais sur la même question, mais en d'autres termes. Alors,
là, la réponse n'était pas forcément la même, là. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, sur l'histoire de droite-gauche, je pense qu'on a dit que c'était peut-être plus ou moins...
Oui, c'est ça, faut faire un peu attention. Puis c'est sûr que quand on est avec quelqu'un...
Rentrez pas ce soir en disant à votre chum, « Hey, t'as regardé à gauche, mon maudit menteur! »
Non, puis faut faire là aussi, on a des biais d'interprétation, on en a tous. Il ne faut pas se demander qui a des biais d'interprétation, on en a tous. Et quand quelqu'un se fait arrêter et se fait interroger, il y a un biais d'autorité qui rentre en ligne de compte parce que là, il y a un policier qui lui pose des questions et si lui, il a de la difficulté avec les policiers, bien, inévitablement, on va voir des signes de malaise qui peuvent être interprétés comme des signes de mensonge.
On a Luc très rapidement avant qu'on termine sur le sujet. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour. Ancien vendeur de voiture.
Ah! Êtes-vous un bon menteur?
Ben, faut croire que je suis une bonne personne pour qualifier, parce que pour réussir justement à vendre, c'est justement de qualifier les clients, les faire parler, s'adapter à leurs besoins, puis leur présenter exactement leur vision à travers ce que tu peux, ce que tu as à leur proposer. Puis, effectivement, tu es obligé de mentir. Des fois, tu es obligé de dire que telle chose est bonne, telle couleur est belle, tel équipement est bon. Puis, ça va avec ce que le client veut. Puis, c'est ça qui te fait vendre. C'est en racontant l'histoire que le client veut entendre.
Oui, c'est sûr. Puis, c'est,
on va avoir la qualification.
Oui. On va avoir l'exemple pendant le prochain mois. Je pense qu'on va entendre beaucoup de choses qu'on pense qu'on veut entendre. Merci beaucoup, Luc, de votre intervention. Merci, Bernard Motulski.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Annabelle Boyer.
Ça fait plaisir.
On va surveiller les gestes de ceux qui nous promettent des belles choses au cours du prochain mois. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois celle qu'on a parfois appelée la Gwyneth Paltrow du Québec. Jacinthe René va être avec nous. On va parler de détox gourmande. À tout de suite, tout le monde.